J'ai le plaisir de vous offrir des billets pour aller voir Jean-Pierre Ferland, Toutes les femmes de ma vie. Son spectacle présenté le 6 février prochain à la salle Wilfrid Pelletier. Ça vous tente, Jean-Pierre Ferland et ses invités, bien entendu. Vous pouvez gagner ces billets en me téléphonant au 514-790-9850. Monsieur Arnois, notre recherchiste émérite, prendra le cinquième appel et décernera une paire de billets pour aller voir ce spectacle au mois de février prochain. C'est tout bientôt, la semaine prochaine, à la salle Wilfrid Pelletier. Philippe Quentin est avec nous. Bonjour, Philippe.
Salut, Mathieu.
Belle victoire pour Novak Djokovic.
Oui, victoire convaincante. Ça n'a pas été le match auquel on s'attendait ce matin, cependant, aux Internationaux d'Australie. Tu te souviens, la dernière fois que Nadal et lui se sont affrontés en finale en Australie, c'était en 2012, et le match avait duré près de 6 heures. Un classique de l'histoire du tennis. Or, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas du tout. Djokovic a lapidé Nadal, ce qui est quand même étonnant, en 3-7. La rencontre a duré à peine 2 heures. Une victoire super convaincante. Mais là, sais-tu qu'est-ce qui devient vraiment intéressant, Mathieu?
Vas-y.
C'est la course au plus grand nombre de titres majeurs en carrière. Alors là, Roger Federer mène encore ce bal-là avec 20 victoires en Grand Chelem. Il est suivi de Nadal qui en a 17. Et là, Djokovic, aujourd'hui, a remporté son 15e titre. Et il n'a que 31 ans. Donc, il y a encore beaucoup de tennis en lui. Et je pense que c'est lui qui devient le favori pour éventuellement devenir le joueur qui va avoir remporté le plus de titres du tournoi du Grand Chelem. Écoute, ça fait 3 tournois en ligne là, qu'il gagne. Il a gagné Wimbledon, il a gagné l'Omnium américain l'an dernier, et là, il remporte l'Australie. Donc, s'il gagnait la France, ça va être plus difficile parce que Nadal va être favori à Roland-Garros. Ben, ça serait qu'à 4 tournois majeurs en ligne. C'est un exploit qu'il a déjà réalisé, mais c'est quand même absolument renversant.
Parlons un peu aussi de Bianca Andreescu, qui est incroyable ces temps-ci.
Oui, la façon dont elle joue, cette fille-là vient d'émerger sur la scène du tennis international. Elle a fait un très beau parcours aux Internationaux d'Australie, se dirige tout de suite pour un tournoi de moindre importance où elle atteint la finale qu'elle va disputer aujourd'hui à Newport Beach. Et dans son parcours, elle a vaincu Eugénie Bouchard 6-2, 6-0 il y a quelques jours. C'est une victoire qui, à mon avis, fait beaucoup pour la carrière de Bianca Andreescu parce que ça la place maintenant probablement la meilleure Canadienne. Si jamais elle gagne la finale aujourd'hui, elle va devancer Eugénie Bouchard au classement. Mais je pense que pour le moral d'Eugénie Bouchard, ça peut faire très mal. Elle avait commencé l'année avec passablement d'enthousiasme en Australie. Elle arrive aux Internationaux. Dès le deuxième tour, elle se bute à Serena Williams. Elle encaisse un revers très, très, très convaincant. Et là, s'en va à Newport Beach et perd contre Bianca Andreescu. Quand le deuxième set a duré uniquement 20 minutes, elle a perdu 6-0. Je pense que ça peut faire mal à son moral. Mais tu sais, je veux juste rajouter une chose sur le tennis, si tu permets. Et c'est peut-être, à mon avis, l'événement le plus important dans cette semaine très riche ou dans ces derniers jours très riches qu'on a eu au tennis. C'est la victoire de Naomi Osaka en Australie du côté féminin. Moi, je pense que Naomi Osaka, Mathieu, peut devenir, et est déjà sans doute, une des plus grandes vedettes du sport international. Et ça va aller en s'accentuant parce que, bon, elle représente le Japon. Et les Jeux olympiques de 2020, l'an prochain, l'été 2020, ont lieu au Japon. Là-bas, elle est déjà une immense vedette. Elle a signé des contrats publicitaires ahurissants en termes de dollars. Et c'est une fille très sympathique qui joue un tennis vraiment audacieux avec beaucoup d'énergie. Et je pense qu'elle est vraiment devenue une vedette internationale de première dimension.
Parlons un peu de... On va changer de sport complètement. On va aller avec le Canadien. Tu dis... Parce qu'on va rentrer dans une période où on ne pensait pas le Canadien cette année où on serait capable de rivaliser pour une place en série. Il va se battre pour une place en série jusqu'à peu près la toute fin. Là, le pari pour Marc Bergevin, c'est de se dire, est-ce que je mise, est-ce que j'essaie de m'avancer en série, est-ce que je tente, parce que l'équipe performe un peu mieux? Est-ce qu'il va être tenté, tu penses, à aller laisser aller un espoir? Parce que là, c'est quand même pas si mal, là, ce qu'on
ben
voit.
Ben oui, c'est sûr qu'il va être un petit peu tenté. Il a dit qu'il ne le ferait pas, qu'il laisserait pas, qu'il ne sacrifierait pas une partie de l'avenir de l'équipe pour un remplacement à court terme. Mais la pression va être forte parce que, regarde, on commence déjà à en parler. La date limite des transactions, c'est le lundi, c'est le 25 février, je pense. Donc, ça va devenir un sujet incontournable. Mais moi, je regarde les filiales, pas tant les filiales, mais mais les joueurs qui font partie maintenant du réseau du Canadien, c'est-à-dire tous ces joueurs qu'ils ont repêchés dans les dernières années. Et là, pour la première fois, Mathieu, depuis tellement longtemps, ils commencent à avoir une masse critique de joueurs de qualité. Tu regardes le repêchage de 2018, par exemple, bon, Kotkaniemi au premier rang, bien sûr, mais les autres qui suivent, il y en a là-dedans qui sont promis une belle carrière. Jesse Ilonen, Alexander Romanov, l'année précédente, 2017, Ryan Poehling, oui. Josh Brooke, donc Caden Primo aussi, le gardien de but. Donc, il commence vraiment à avoir une masse. Et moi, ça fait longtemps qu'on attend ça chez le Canadien. Et c'est ça que ça prend pour avoir de la profondeur dans une équipe. C'est ça que ça prend pour être capable de lutter avec les meilleurs. Alors, je pense qu'il y a un piège pour le Canadien de vouloir accélérer le processus dans lequel il s'est embarqué l'an dernier en échangeant Pacioretty, en échangeant Galchenyuk. Le Canadien appelle ça la réinitialisation, on peut appeler ça la reconstruction, la phase 2, peu importe. Il en reste pas moins qu'on a pris le pari de bâtir pour l'avenir, de bâtir vraiment dans une perspective, non pas à court terme là, pour les prochaines séries éliminatoires, mais pour bâtir une équipe qui va véritablement lutter pour l'obtention de la Coupe cette année dans 3 ou 4 ans. Et moi, je pense qu'il ne faut pas déroger à ce plan-là et qu'il y a un piège, donc, à la date limite des transactions cette saison, c'est de dire « Hey, on a peut-être une chance d'aller loin en série avec Carey Price. Hein, » c'est tout le temps un peu le buzz chez le Canadien, la fameuse expression avec Carey.
Qui est dans une bonne séquence, on va dire.
Oui, c'est ça. Mais pour moi, il y a un piège. Je ne pense pas que le Canadien a encore la force, la puissance pour sérieusement menacer pour la Coupe cette année. Je comprends que l'équipe joue bien à l'heure actuelle, puis il y a des équipes qui ont des difficultés qui vont certainement se replacer, je pense à Toronto notamment. Mais pour moi, le Canadien va devenir un véritable prétendant à la Coupe Stanley. La journée, et je suis convaincu que ça va arriver, où Jesperi Kotkaniemi va être de loin le meilleur attaquant de l'équipe, le jour où ça va devenir un peu son équipe, à tout le moins dans le volet de l'attaque, parce qu'il y aura toujours Price qui devrait théoriquement occuper une bonne place encore pendant quelques années. Mais tant qu'on n'est pas rendu là, et là, il a 18 ans, il est en pleine formation, mais il montre des choses tellement extraordinaires, moi, je pense que ça va finir par arriver. Et je pense qu'il faut attendre et s'arranger pour que tout ce groupe de jeunes-là, qui sont déjà à Montréal, Kotkaniemi, Mété, Drouin pas vieux, Domi n'est pas vieux, mais que des joueurs comme Brooke en défensive, comme Poehling en attaque, viennent les rejoindre.
Suzuki.
Pour former Suzuki, bien sûr, pour former une équipe éventuellement de premier plan. Donc, moi, je dis gare à la date limite des transactions. Je pense que ce serait une erreur importante d'échanger un morceau d'avenir pour une solution à court terme.
Il nous reste à peu près 2 minutes. Les Rays de Tampa, c'est drôle parce qu'ils prennent des initiatives. On dirait que le club est sur le bord de partir à chaque semaine, mais ils prennent des initiatives, on dirait, pour tenter de réanimer le cadavre.
Oui, c'est ça. Alors là, ils ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient fermer le balcon au Tropicana Field, donc le deuxième niveau de siège, pour créer une ambiance plus intime. Ça fait que maintenant, ce stade-là va être le plus petit des ligues majeures en termes de capacité. Alors bon, je sais qu'on fait ça mais c'est quand même le constat que les choses vont mal. Quand tu commences à mettre des draps là, sur des sections d'un stade, c'est pas un signe de santé. Ça veut dire que ça va mal. Alors donc, on en est là. Et là, ils annoncent cette semaine une autre initiative. Ils disent aux gens qui vont aller assister au match, on n'acceptera plus l'argent comptant. Si vous voulez vous acheter une bière, si vous voulez vous acheter un hot dog, oubliez ça, il faudra payer soit par carte de crédit, carte débit ou tout autre moyen électronique avec votre téléphone intelligent. Et ils disent que c'est fantastique et tout, puis que c'est vraiment une stratégie de l'avenir. Mais j'ai un peu ri en voyant le communiqué des Rays de Tampa Bay. Ils disent qu'un des principaux atouts de cette stratégie-là, c'est que ça va éviter les files d'attente au kiosque. Alors, oui. Quand tu attires à peu près 10 000 personnes par match dans une rencontre de baseball, mais ils ont l'air de quoi, les files d'attente? Sont-elles si énormes que la priorité numéro 1, c'était de réduire leur longueur? Je trouve ça un petit peu aberrant.
Ça dépend, s'il y a juste un comptoir.
Oui, ben c'est ça.
Il y a juste un barbecue pour faire les hot dogs.
Peut-être qu'on lésine sur le personnel en poste pour servir la clientèle. J'imagine qu'il doit avoir un peu de cela aussi.
Salut, Philippe.
Salut, Mathieu.
Merci à toi. À la prochaine, Philippe Quentin qui était avec nous. C'est déjà tout. Merci infiniment à Fred Perron à la réalisation, alias DJ Passion, François Arnois, le plus grand fan des Packers de Green Bay de l'histoire, aussi à sa participation à l'émission. Merci surtout à vous d'avoir été là. Soyez prudents dans vos déplacements aujourd'hui. Ce ne sera pas facile. Une drôle de semaine encore en prévision. À samedi prochain. Bye-bye.